Cette femme, vous l'avez déjà vue quelque part. Devenue une évidence pour tous, c'est Marianne, l'incarnation de la République française. Or, notre vision est complètement déformée. Cette femme provient d'un tableau peint à une époque où la France n'était pas une république, mais un royaume. Il a été peint par un homme résolument anti-républicain, sceptique face à la démocratie. Ce peintre est Eugène Delacroix, un vrai dandy parisien horrifié par tout ce qui peut être vulgaire ou populaire. Comment a-t-on pu arriver à un contresens aussi énorme? Delacroix a-t-il échoué à faire passer ses idées? Ou bien est-ce nous qui ne voulons pas admettre la vérité en oubliant la mort et la barbarie qui règne? Qui est responsable de ce contresens? C'est peut-être nous. À force de voir ce tableau, nous ne prenons plus le temps de le regarder. Tout a l'air simple. Drapeau tricolore, bonnet phrygien, sans culotte. À première vue, c'est une image générale de la République triomphante. Et pourtant, ce tableau fait référence à un événement précis, datable au jour près. On pense bien sûr à la Révolution française, la grande, celle de 1789. En haut, le peuple vainqueur. En bas, les soldats du roi. Un Suisse et un cuirassier terrassés. Mais cette foule est celle d'une autre époque. L'ouvrier manufacturier, béret, pantalon à bretelles et tablier, le travailleur à la journée, en blouse bleue, appartiennent tous deux à l'ère industrielle. Cet homme en redingote, cravate et chapeau haute forme peut être journaliste ou chef d'atelier et vêtu à la mode des années 1820-1830. Derrière lui, le bicorne d'un élève de polytechnique, une école créée après la Révolution. Enfin, un gamin de Paris, en gilet et béret. C'est lui qui inspirera à Victor Hugo le personnage de Gavroche dans Les Misérables, dont l'action se déroule au début des années 30. À l'arrière, au-delà de la poussière et de la poudre, on découvre un bataillon d'infanterie, attaqué par les coups de feu qui partent des fenêtres. Et ce drapeau, au sommet des tours de Notre-Dame, est le signal d'une journée bien particulière. Nous sommes le 28 juillet 1830 sur une barricade. Un jour historique? Tellement historique qu'on l'a bel et bien oublié aujourd'hui, noyé dans les soubresauts du 19e siècle. Depuis 1789, en effet, les régimes se succèdent très rapidement. Après la défaite définitive de Napoléon en 1815, la monarchie française est restaurée. 20 ans après la Révolution française, les deux frères de Louis XVI reprennent le pouvoir. Le second, Charles X, défenseur acharné de l'Église et de la tradition monarchique, règne depuis 6 ans, lorsque le 26 juillet 1830, il fait l'erreur de censurer la presse et de réduire un droit de vote déjà très limité. La réaction ne se fait pas attendre. Mené par des polytechniciens, le peuple de Paris construit des barricades et se révolte. Durant les 3 journées, surnommées les 3 glorieuses, on se bat dans les rues, dans les immeubles. Il s'agit donc bien d'une révolution. Charles X, renversé du trône, doit quitter la France. Mais la monarchie n'est pas remplacée par une république. La bourgeoisie d'affaires préfère confier le pouvoir à un cousin de l'ex-roi, le duc Louis-Philippe d'Orléans, prince plus libéral et bourgeois en apparence, mais rapidement aussi autoritaire et impopulaire que ses prédécesseurs. En somme, pas de changement profond. Ce n'est que 18 ans plus tard, après une nouvelle révolution, que la République parviendra à s'installer. Voilà pourquoi 1830, révolution ratée, a été si vite oubliée. Mais alors, pourquoi le tableau de Delacroix a-t-il fini par devenir plus célèbre encore que l'événement qu'il représente? Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Delacroix est loin d'être le seul à peindre cet événement. En 1831, au Salon des artistes à Paris, les peintres se précipitent sur ce sujet d'actualité. De manière générale, ce qui les intéresse, c'est montrer le spectacle pittoresque d'une bataille en plein Paris. Ils utilisent donc les procédés de la peinture de bataille. Des vues panoramiques, avec des personnages très petits dans le tableau. le point de vue des vainqueurs, c'est-à-dire des insurgés vus en grand, de dos, face à l'ennemi. Des anecdotes curieuses et émouvantes. Delacroix détonne en faisant exactement l'inverse. Dans quel quartier sommes-nous? À quel moment précis de l'action? Impossible de le savoir, car le spectateur est placé très bas, assailli par des figures aussi grandes que lui. La logique du combat n'est pas claire. C'est vers nous que sont tournés les insurgés, alors que l'on distingue les troupes royales à l'arrière-plan. Enfin, à la place réservée au chef, Delacroix peint une femme. Tout indique qu'elle joue un rôle clé. Au sommet d'une pyramide de corps, au point de rencontre de lignes obliques, elle attire notre regard et celui des hommes qu'elle domine. Mais la situation est improbable. Que fait cette femme à moitié nue au milieu des coups de feu? En réalité, ce n'est pas un être comme les autres. Delacroix signale qu'elle relève d'un autre monde. Son buste et ses pieds nus, la ligne serpentine de son corps, le drapé aérien de cette tunique simple, sont directement empruntés aux statues des déesses grecques antiques comme la Vénus de Milo. Bien qu'elle marche droit sur nous, son visage désaxé se découpe en profil grec, comme une médaille. Derrière sa tête, un nuage de fumée fait l'effet d'une auréole divine. Le bras passe exprès devant la bande blanche du drapeau pour mieux ressortir à contre-jour. Elle porte le bonnet phrygien, symbole d'émancipation. Le titre du tableau donne la solution, c'est la liberté. Cette femme n'a jamais existé, elle n'a ni nom ni histoire personnelle, elle incarne une idée abstraite. C'est ce que l'on appelle une allégorie. Plutôt que de se perdre dans les circonstances de l'événement, Delacroix préfère exprimer l'idée abstraite et positive qui a guidé le mouvement. Dans ces conditions, l'emploi de l'allégorie aurait dû satisfaire pleinement le public du XIXe siècle. Or c'est l'inverse qui se produit, la liberté guidant le peuple est accablée d'injures. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu qu'elle est sale, dévergondée, la plus ignoble courtisane des plus sales rues de Paris. Est-ce qu'il n'y avait que de la canaille à ces fameuses journées-là? Le procès commence. Accusé numéro 1, cette femme est effectivement plus proche de la poissarde que de la déesse. Les seins à l'air, rouges de sueur, bronzés par le soleil de juillet, à moins que ce soit de la crasse ou de la poudre à canon. En outre, pas très féminine ni gracieuse. Même musculature, même geste énergique que ce gladiateur grec, et avec les poils aux aisselles par-dessus le marché. Des comparaisons aident à mieux comprendre le choc du public. Depuis la Révolution française, les allégories de la liberté trônent comme des statues de déesses en majesté, belles, sereines et célestes. Même quand elles s'adressent aux hommes, l'allégorie ne se mêle pas à eux. La règle est simple, l'allégorie d'une idée positive doit toujours être idéalisée. Et quand à la fin du XIXe siècle, le sculpteur français Frédéric Bartholdi réalise une statue monumentale de la liberté offerte aux États-Unis, il respecte cette règle. Parfaitement statique, couronnée d'un diadème, la liberté tient la table de la loi et le flambeau de la vérité éclairant le monde. C'est une liberté universelle, rationnelle et pacifique. Exactement l'inverse de celle de Delacroix. Chauvine, crasseuse, débraillée et dangereuse, elle incarne toutes les dérives politiques. Et les complices ne sont pas mieux lotis. Accusé numéro 2, individu dangereux. Accusé numéro 3 et 4, jeune délinquant en situation de port illégal d'armes. Pour le reste, le peintre ne cherche pas à séduire. Pavé gris, poutre calcinée, ombre profonde, pieds sales, ongles noirs, poils pubiens. La violence omniprésente et les détails macabres achèvent de nous inquiéter. Plutôt qu'un grand peuple, on voit la populace, masse dangereuse et incontrôlable guidée par une furie armée jusqu'aux dents. Le tableau est si ambigu, on a l'impression que le peintre se contredit lui-même. Alors la question reste entière. Delacroix fait-il l'éloge ou la caricature de la démocratie ?